Bonjour. La fois passée, nous avons commencé à nous interroger sur la manière dont Israël a envisagé la reconstruction du peuple après l'exil. Donc il faut nous imaginer que tout ce qui avait été donné par Dieu a été enlevé. Et ça pose une terrible question sur ce qui est la présence de Dieu. Ou bien Dieu a une justice qui nous dépasse, ou bien il n'existe pas, ou bien c'est nous qui ne parvenons pas à nous adapter à la réalité de Dieu. Et donc c'est cette question fondamentale qui s'est posée à Israël pendant l'exil. Puisque Dieu avait donné une parole, la Torah, il avait donné un territoire, le territoire d'Israël, et qui a été de plus en plus grignoté par les voisins, à telle enseigne qu'il ne reste plus que le territoire de Juda tout petit, c'est-à-dire la campagne autour de Jérusalem. Dieu avait unifié le peuple en lui donnant un roi, et tout cela a disparu. On s'est retrouvé en exil, le dernier roi a été aveuglé, il y a quand même un petit roi, Yoyakin, qui est resté prisonnier, puis qui a été réhabilité. Mais tout ça, tout ce qui avait été donné par Dieu, a disparu. Alors, petit à petit, à travers la réflexion des exilés, et nous savons que ces exilés, c'était surtout, disons, les intellectuels, les leaders en tout cas, ceux qui étaient capables de réflexion et de conduire le peuple, même sur le plan politique, social aussi, évidemment, économique, et un certain nombre d'artisans qui étaient habiles, qui auraient pu fabriquer des armes, ces gens qui étaient en exil et qui avaient fondé une petite communauté en exil et autour de Ninive et autour de Babylone, des gens qui avaient été d'abord esclaves, puis qui petit à petit avaient pris une certaine importance au milieu des nations, ces gens désirent rentrer à Jérusalem et retrouver leur terre. Or, rentrant, et petit à petit, hein, bien sûr, la Bible nous raconte qu'il y avait comme des colonnes hein, de rapatriés qui sont arrivés à Jérusalem, mais en réalité, ces colonnes, c'était un peu des gouttes à gouttes qui petit à petit ont envahi la ville de Jérusalem. Mais ont vu une situation qui n'était pas du tout celle qu'ils attendaient. Il y avait encore beaucoup de ruines. Il y avait leurs terres avaient la plupart du temps disparu, c'est-à-dire qu'elles étaient aux mains d'autres personnes, d'autres familles. Donc il y avait eu tout un remue-ménage social, dirions-nous. Sur le plan économique, on vivait très pauvrement. Et la politique, n'en parlons pas, on restait très divisé. Certaines grandes familles se disputaient avec d'autres. La situation n'était pas du tout extraordinaire. Et donc, il a fallu remettre ensemble deux populations qui venaient de la même souche. Celle qui rentrait d'exil et celle qui avait été là. Et qui, socialement, s'était contentée d'une manière de vivre très sobre, avec quelques grands patrons qui avaient pris pratiquement tout le territoire possible, des grandes familles. Et voilà maintenant que on n'est plus du tout dans l'état d'autrefois. On n'a plus du tout d'indépendance, même si elle était minime, on n'a plus du tout cette autonomie. On est sujet d'un roi étranger. Oh, non plus Babylone. Mais maintenant, c'est une autre dynastie, un autre peuple, une autre mentalité, une autre perception des choses. C'est la situation perse. On est sous le régime perse. Et dans le cahier évangile numéro 95, que je vous recommande, de Philippe Abadi, qui est professeur à Lyon, on nous donne un petit aperçu. Vous retrouvez aussi cet aperçu, mais d'une autre manière, dans la deuxième partie du livre d'Isaïe, Cyrus. Cyrus qui est appelé le serviteur de Dieu, au même titre que Israël, au même titre que ce serviteur anonyme qui va devenir la figure de Jésus, le serviteur souffrant. La politique religieuse des Achéménides, c'est la famille des gouvernants de Perse, qui avait déjà assimilé les Mèdes, qui avait pris Babylone, et donc qui était puissant. La politique est tout à fait différente de celle de Babylone ou celle de la Syrie. Au lieu d'être dominé par le roi ou l'empereur, les dirigeants perses vont négocier avec les populations qu'ils ont assimilées. Ils vont négocier, ils vont leur donner beaucoup d'autonomie, une certaine autonomie dépendante évidemment, dans la division politique et sociale du pays, mais en même temps on leur apportait des sources de commerce, puisqu'on pouvait trafiquer maintenant davantage avec des pays beaucoup plus importants, comme la Perse et les autres voisins. Mais sur le plan religieux, l'autonomie leur était conservée. Donc il fallait reconstruire cette autonomie du passé à travers deux peuples socialement et économiquement divisés. Il fallait reconstruire quelque chose. Alors, est-ce qu'on allait reconstruire ce qu'on pensait que c'était avant ? Après 60 ans, 70 ans, les choses ont changé, la mentalité du peuple a changé aussi. Ou bien fallait-il reconstruire quelque chose de neuf ? Et cette nouveauté, où allait-on la puiser ? Alors le personnage qui est mis en évidence, c'est Cyrus. Donc Cyrus, serviteur de Dieu. Mais sous Cyrus, vous avez aussi les suivants, Darius, Xerxès, Artaxerxès. Et il y a effectivement une politique orientée. Je vous dis simplement ce que Philippe Abadi résume. Cyrus ne fut pas le seul souverain perse à adopter une politique religieuse bienveillante. Si son fils et successeur Cambyse laisse le souvenir d'un roi brutal qui en Égypte fit abattre le bœuf Apis dans un excès de colère, tel ne fut pas le cas de Darius, dont Diodore de Sicile trace un portrait fortement idéalisé. Et de fait, on va idéaliser comme on idéalise David, Salomon, on idéalise aussi les souverains étranger bienveillant. Et voilà ce que nous dit Diodore de Sicile. Le sixième à s'intéresser aux lois des Égyptiens fut Darius, le père de Xerxès, haïssant la violation des lois dont s'était rendu coupable Cambyse. Il y a toujours aussi cet effet de contraste entre les uns et les autres. Son prédécesseur au trône, envers les sanctuaires d'Égypte, il aspira à mener une existence modérée et pleine de piété. Donc, nous sommes sous le régime de la tolérance. De fait, il fréquenta les prêtres d'Égypte et fut introduit dans la connaissance de la théologie et des actions consignées dans les livres sacrés. Il y releva la magnanimité des rois antiques et leur dévouement à leur sujet, et il imita leur conduite. Donc une manière de dire qu'il y a quelque chose de bon dans l'homme, même dans celui qui est apparu comme l'ennemi et le conquérant. Et c'est pourquoi, au début de ces livres d'Esdras et de Néhémie, qui sont dans la même orientation que le chroniste, nous avons vu la fois passée, hein, la reconstruction d'Israël, mais qu'est-ce qui va reconstruire Israël? Est-ce que c'est la politique des Achéménides, la politique de Perse? Ou bien est-ce que c'est cette présence de Dieu? Donc il y a un retour à cette fidélité de Dieu. Et je prends ici, dans la revue Biblia que je vous recommande constamment, qui vous donne une mine extraordinaire, non seulement de données, mais de réflexions, et de réflexions actualisées. Et il faut remercier Madame Anne Soupa qui a, pendant 10 ans, composé ce commentaire d'Écriture sainte, commentaire illustré abondamment, et actualisé. Et dans le fascicule numéro 73, intitulé « Naissance du judaïsme », je vous lis simplement l'éditorial fait par Madame Soupa, que nous aurons le plaisir d'accueillir dans 15 jours. Donc, à propos des livres d'Esdras et de Néhémie et de cette histoire d'après l'exil. Les livres que vous allez lire sont de ceux qui génèrent avec leurs lecteurs un compagnonnage tout à fait particulier. Intéressant de voir qu'il y a entre le texte et le lecteur une connivence profonde. Convenons que ce ne sont pas pour un lecteur chrétien des livres avec lesquels nous entretenons une grande familiarité. Généralement, on ne lit pas ce livre-là, Histoire ancienne. Certes, il y a une exception, ce chapitre 8 du livre de Néhémie, nous allons en parler tout de suite, connu parce qu'il place la lecture publique de la loi au centre de la reconstruction juive et y voit l'occasion d'une fête grandiose, capable même d'effacer toute peine. Un lecteur juif, en revanche, questionnera ces livres sur tout ce qu'il aimerait savoir des origines du judaïsme. Question des origines du judaïsme, et vous savez qu'aujourd'hui, la question des origines du christianisme à partir du judaïsme est de plus en plus un objet d'étude, et d'étude très importante. Questionnera ses livres sur tout ce qu'il aimerait savoir des origines du judaïsme, et il leur prodiguera beaucoup de respect et d'amour. Car ils ont mission de définir et de protéger pour toujours son identité naissante. Et donc il y a une réflexion sur une identité. Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Et il y a de fait un juif, Dani Yaffe, dans ce fascicule, qui explicite un peu ce qu'est être juif aujourd'hui dans différentes mentalités juives, aussi bien en Amérique qu'en Europe. C'est pourquoi Biblia a voulu vous offrir un numéro de référence sur la question importante de l'identité juive. À dessein, nous avons poussé l'investigation jusqu'à aujourd'hui en demandant à Dani Yaffe, justement, collaborateur de toujours de la revue, de questionner cette identité et d'en dresser pour nous le périmètre. Comment retourne-t-on à ses origines ? Est-ce un retour en arrière ou une sorte de reviviscence de quelque chose de profond qu'on avait peut-être quelque part abandonné. Il faudrait cependant se garder de conclure que cette question est intéressante, mais latérale pour un chrétien. Elle est au contraire centrale, non seulement tout ce qui concerne le judaïsme importe aux chrétiens, mais la question de la naissance d'une identité fascine. Le cœur du message de ces livres est en effet de questionner sur le qui, le pourquoi et le comment d'une identité. On parle aujourd'hui beaucoup d'identité, et même Amin Maalouf a écrit « Les identités meurtrières ». Une identité peut tenter d'éliminer toutes les autres. La réponse, la voici, dans sa radicalité. Ni l'individu, ni la collectivité ne peuvent se construire sans Dieu. Et voilà le sens de ces deux livres d'Esdras et de Néhémie. Ni sans la conscience d'une élection, c'est-à-dire d'un choix aimant, et la certitude d'une providence. Peut-être est-ce aussi cela qui manque aujourd'hui à notre humanité. Et ce message, pris dans l'écorce de récits lointains, de querelles dépassées entre autochtones et anciens exilés, voyez ce à quoi je viens de faire allusion, de fastidieuses listes de familles, est d'une prodigieuse valeur pour aujourd'hui. En reconnaissant l'existence de plus grand que lui, en mettant à nu son désir de Dieu et en se donnant les institutions qui lui font droit, en entrant en relation avec un Seigneur présent à toute histoire, l'homme trouve son assise propre et la collectivité fonde ses raisons de vivre, même si, au temps d'Esdras, l'indépendance politique ne lui était pas reconnue. L'indépendance politique n'était pas reconnue. Et pourtant, Israël a retrouvé son identité profonde. Aussi, ces livres vénérables ont-ils valeur de charte anthropologique. Ils disent indirectement qui est l'homme. Certes, bien d'autres livres de la Bible suggèrent que l'homme ne vit pas sans Dieu. Mais ceux-ci s'efforcent d'ancrer cette certitude dans une histoire vécue en remontant au plus près d'une naissance. Cela donne à ces livres rang de témoins qui attestent que Dieu était là à l'aube du judaïsme. Dieu ardemment désiré, ce que prouvent les efforts de reconstruction du temple, et Dieu fêté dans un débordement de joie que nous, lecteurs de Biblia, pourrions adopter lors de toutes nos lectures, à commencer par celle qui s'annonce avec ses pages. C'est bien exprimé. Et si vous lisiez, ne fût-ce que les éditos de tous les livres, vous auriez déjà une bonne connaissance de l'écriture. Et je vous recommande, surtout à ceux qui doivent passer des examens d'écriture et un ou et deux, de vous référer souvent à cette mine de renseignements et de réflexions. Et donc les livres d'Esdras et de Néhémie, ce ne sont pas, de nouveau, des livres établis selon une chronologie de type moderne. C'est une réflexion théologique sur des points d'histoire. Bien sûr que c'est ancré dans la réalité concrète, mais c'est une réflexion. Qu'est-ce qui fait vivre ce peuple? Qu'est-ce qui le fait retrouver une unité alors qu'on est devant des éléments très disparates et surtout deux mentalités différentes? Les livres d'Esdras et Néhémie, qui sont souvent mis sous la plume, disons, du chroniqueur, les livres des chroniques, nous les avons vus la fois passée, enfin nous les avons survolés, et c'est un fait un peu, c'est dans la même mentalité. Mais les livres des chroniques reprenaient l'histoire des rois sous l'angle sacerdotal, et notamment lévitique. Ici, nous avons une reprise à partir de deux personnages. Deux personnages qui ont été envoyés par le roi de Perse. Esdras, Ezra, c'est-à-dire l'aide, c'est Dieu qui aide Ezer, Ezra, hein, et Néhémie, Nehemia, Dieu fait à compassion, Naham, console son peuple. Et donc même ces deux noms sont symboliques, Esdras, Néhémie. Esdras, qui est le prêtre, le scribe, c'est-à-dire celui qui conserve et qui explique la Torah, et prêtre, hein, le prêtre et le scribe sont souvent mêlés l'un à l'autre, et Néhémie qui est envoyé comme gouverneur, donc avec une autorité du roi de Perse. Donc tous les deux sont deux envoyés du roi de Perse. Et on commence évidemment par vous rappeler, hein, ce que le roi de Perse a fait, Cyrus, a dit. Il a permis au peuple de rentrer de Babylone, où il se trouvait, ou de Ninive, hein, où il se trouvait non plus campé, hein, ou campant autour de la ville, comme ça avait été au départ, mais travailleurs qui avaient acquis des maisons, etc., hein, suivant la lettre de Jérémie, au chapitre 28e de Jérémie. Donc installez-vous là où vous êtes, à Babylone, et faites souche, vivez, mais vivez, hein, à partir de la Torah, bien entendu. Donc un peu en vous rapprochant les uns des autres, dans ce qu'on va appeler beaucoup plus tard le ghetto. Et donc, on va commencer par vous rappeler cet édit de Cyrus qui a permis aux gens de retourner et de retrouver éventuellement leur terre. Et même, dans un gouvernement, non plus seulement Cyrus, mais aussi les suivants, et Darius surtout, et de donner des fonds, des subsides pour reconstruire le temple. Donc pour reconstruire le temple et reconstruire en même temps la réalité du peuple. Et effectivement, c'est ce que nous allons voir. Le livre d'Esdras étant centré sur la reconstruction de l'autel, important, c'est l'autel des sacrifices, et du temple, évidemment, pas le temple tel que Hérode va le reconstruire encore plus tard, mais déjà, hein, un centre vital du peuple d'Israël. Reconstruire le temple. Oui, mais reconstruire le temple, reconstruire une maison où Dieu puisse résider au milieu de son peuple, et donc il y a la notion de son peuple, c'est-à-dire d'élection, on a une responsabilité à vivre. Puisqu'on est le peuple choisi par Dieu, bon, ça peut être considéré comme un privilège, mais c'est un privilège qui annonce aussi un engagement réel. Donc, reconstruire ce qui fait l'unité du peuple de Dieu, reconstruire ce qui avait été vécu au Sinaï. Au Sinaï, vous aviez le personnage de Moïse, et vous avez eu, juste après Moïse, vous avez eu Josué. Ici, nous allons avoir deux personnages aussi. Esdras, qui va fonctionner un peu à l'image de Moïse. Moïse avait donné la loi. Esdras va redonner la loi pour une situation différente. Différente de celle du désert, différente même, hein, du sel de la monarchie. Et Néhémie, le gouverneur, un laïc, mais un laïc donc, qui prend à cœur sa tâche de venir voir la situation. Il vient visiter Jérusalem, dont les remparts sont encore en ruine, et il va reconstruire les murailles. Vous voyez déjà ce que ça veut dire, cela. D'abord, reconstruire le temple pour se recentrer sur ce qui fait l'unité du peuple, c'est-à-dire cette présence de Dieu dans l'homme. Le temple est une image, il n'est pas la réalité profonde de Dieu. C'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. C'est-à-dire la population dans laquelle Dieu se rend présent. Dans laquelle Dieu témoigne à travers l'unité du peuple qu'il est présent dans le peuple. Donc c'est ça que symbolise en quelque sorte la réalité du temple. Et pour symboliser cette réalité, pour qu'elle soit véritable, il faut reconstituer des sacrifices. Le sacrifice étant une manifestation, un acte de foi dans la présence de Dieu, dans cette réalité humaine, dans l'animalité. Mais cette animalité, elle est dans l'homme. Donc il faut que l'homme puisse immoler quelque chose de son animalité pour vivre vraiment en fils de Dieu, pour appartenir au peuple de Dieu. Donc les sacrifices veulent dire quelque chose de très important. Et c'est un symbole qu'il ne faut pas du tout négliger. Il faut s'imposer une limite. Et si on immole des animaux, mais en même temps qu'on donne la possibilité, parce qu'on n'immole pas toute la chair des animaux, sauf dans les holocaustes, où on brûle tout, c'est-à-dire pour symboliser la gratuité même du don de Dieu, mais on, la plupart du temps dans les sacrifices de communion, on brûle seulement la graisse et les abats, et la viande elle-même est partagée, et c'est la boucherie. C'est l'endroit où on vient chercher la viande pour se nourrir. De même que, d'ailleurs, dans les temples païens, on faisait la même chose. Et c'est pourquoi vous avez encore dans l'église, dans la première église, ces idolotites, c'est-à-dire cette viande qui a été sacrifiée aux idoles dans des temples païens, mais que l'on vend aussi dans des boucheries, d'autres boucheries. Et donc, il faut bien percevoir que cette mentalité, si elle est liée à des réalités concrètes, humaines, parfois sanglantes, parce que la vie de toute chair est dans son sang, est centrée sur la réalité de la vie. Donc, si Dieu est de nouveau présent dans son peuple, s'il a un siège, un trône, où il peut régner, c'est pour que le peuple soit vraiment le peuple de Dieu. Ah ! Quelles sont les conditions pour que le peuple soit vraiment le peuple de Dieu ? D'abord qu'il soit libre. Et pour être libre, ben, il observera la Torah. La liberté suprême étant dans l'observance de cette présence de Dieu. J'en tiens compte et je le vis dans toute la réalité de ma vie quotidienne. Et donc, ne nous étonnons pas que c'est à ce moment-là que la Torah de sainteté, la loi de sainteté, c'est-à-dire le Lévitique, va être composée, rédigée dans sa composition, avec les sacrifices, avec le pur et l'impur. C'est toute une discussion, le Lévitique. Et c'est aussi un livre sur lequel nous passons en pieds joints, alors qu'il est essentiel dans la Torah, puisqu'il est le centre. Si Dieu est au milieu de son peuple, si le peuple est uni par cette présence divine, eh bien, il va être libéré intérieurement par la Torah. Et il va librement reconnaître que ce Dieu est celui qui le fait vivre. Et donc la Torah, qui peut apparaître à certains moments comme un joug dur, La Torah est libératrice. Vous le savez bien, hein, ceux qui participent au séminaire de la Torah. La Torah est le chemin de liberté, c'est-à-dire de la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Et donc c'est tout cela, reconstruire le temple. C'est pas seulement trouver des architectes et des maçons pour reconstruire une maison, mais bien sûr. Parce que s'il n'y a pas cette réalité-là, une réalité purement spirituelle, ça n'existe pas dans le judaïsme, je vous l'ai déjà dit, et c'est essentiel. Donc, un temple, un autel, des sacrifices, symbolisant justement les limites que nous mettons à notre être pour que les autres soient reconnus aussi, et Dieu soit reconnu dans les autres et en nous-mêmes. Donc, le temple, la Torah, ah oui, mais cette Torah, ce ne sont pas seulement des prescriptions religieuses, c'est une manière de vivre, c'est une halakha, c'est-à-dire c'est un chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dira Jésus, reprenant précisément cette idée. Je suis le chemin qui fait parvenir à la vérité de la vie, de Dieu qui est la vie. Mais dans la vérité, c'est-à-dire dans la liberté intérieure. Donc, voyez comment ce retour d'exil forge déjà toute une mentalité. Et nous nous rapprochons petit à petit de Jésus. Et sans cette période de ceci, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que Jésus vient dans une continuité avec la vie du peuple. Il a attendu, bien sûr, un élément de rupture de cette continuité, bien sûr, de nouveauté. Mais c'est dans une ligne. Et donc, puisque le peuple doit vivre cette réalité intérieure et qui doit être manifestée aux nations, car la vocation d'Israël n'est pas une vocation à usage interne, ce n'est pas le partage d'un privilège entre nous, c'est un passage des ténèbres à l'admirable lumière, c'est-à-dire doit être un témoignage. Quand on vit comme cela, on est heureux de vivre. Et on vit bien, même dans les difficultés, dans l'adversité. Parce que on est passé à travers une mort, l'exil, pour découvrir que Dieu nous rattrapait dans l'exil. Il est toujours présent dans toute situation humaine. Vous voyez l'importance de ce nœud d'Esdras et de Néhémie. Et si nous regardons dans les livres de sagesse, vous avez justement le livre de Ben Sirac. Vous savez que le livre de Ben Sirac vous montre la présence de Dieu dans la création, à partir du chapitre 44. D'abord, dans la création, c'est à partir du chapitre 42 de Ben Sirac ou l'Ecclésiastique. Et puis, à partir de 44, vous avez comment Dieu est présent dans la vie du peuple à travers un certain nombre de personnages. Vous avez évidemment Moïse, Aaron, Pinchas, Josué, Caleb, les juges, Samuel, Nathan, David. On repasse un peu toute notre histoire, mais vu d'une autre manière. Salomon, Roboam, Jéroboam, Élie, Élisée, et puis infidélité et châtiment, Ézéchias, Isaïe, Josias, dernier roi, dernier prophète. Et puis, à partir du chapitre 49, vous avez les personnages du retour. Mais on vous parle surtout de Zorobabel, qui est un Davidide, un petit descendant de la famille de David, Zorobabel et Josué, le prêtre, donc deux personnages qui rappellent la dynastie d'autrefois et qui vont reconstituer justement retourner d'abord en Terre Sainte. On dit que Zorobabel et Josué sont arrivés à la tête des rapatriés en Israël. Comment faire l'éloge de Zorobabel? Au verset 18. C'est ça? Il est comme un sceau dans la main droite. Et de même Josué, fils de Yosédek, eux qui de leur temps construisirent le temple et dirigèrent vers le Seigneur un peuple saint, destiné à une gloire, une manifestation de l'amour éternel. On ne parle pas d'Esdras. Et on pense bien qu'il y a eu à certains moments une sorte de partisanerie, les uns étant un peu pour Esdras plus intérieur, les autres pour Néhémie étant davantage tournés vers l'extérieur, vers la reconstruction extérieure du peuple. De Néhémie, le souvenir est grand, lui qui releva pour nous les murs en ruine. Mais vous voyez que l'essentiel est gardé. Zorobabel et Josué construisent le temple et Néhémie reconstruit les murailles. Il établit portes et verrous et releva nos habitations. Et il y a alors une petite récapitulation. Personne sur terre ne fut créé l'égal d'Enoch. C'est lui qui fut enlevé de terre. On ne vit jamais non plus naître un homme comme Joseph, chef de ses frères, soutien de son peuple. Ses eaux furent visitées, Sem et Seth furent glorieux parmi les hommes, mais au-dessus de toute créature vivante, et Adam, c'est l'homme, Adam, le premier homme. Vous voyez, dans cette réalité du peuple, il y a un Messie qui naît, parce que le Messie, c'est tout homme. Et en Israël, chacun est invité à devenir Messie, c'est-à-dire une présence de Dieu pour sa famille, pour ses proches et pour son monde. Et alors, on termine avec au chapitre 50, cette vision magnifique du prêtre restauré qui célèbre une célébration type inspirée en quelque sorte du Yom Kippour. Du jour de la réconciliation. Et ce texte est intéressant parce que justement, Saint Luc, dans sa présentation de l'Évangile, lorsqu'il montre Zacharie, le prêtre du futur Jean-Baptiste, Zacharie célébrant dans le temple de Jérusalem, eh bien, il revit cette histoire. Il revit ce personnage de Simon, le prêtre. Le grand prêtre Simon. Donc vous voyez, nous sommes ici à un chaînon de l'histoire extrêmement important. Le moment où Israël va devenir le judaïsme et au moment où se forgent déjà, vous direz, les gènes du christianisme. Le retour d'exil et la reconstruction du temple, c'est la première partie du livre d'Esdras. Et on commence par vous donner des listes de familles qui ont été rapatriées à ce moment-là. Et puis la reprise du culte. Et puis les difficultés qu'on a eues avec la Samarie, il y avait de grandes familles samaritaines qui ont voulu aussi participer à la construction du temple, mais il y a eu des dissensions, et on est resté séparés. Il y a eu une séparation qui a continué à vivre, alors que le nord, la Samarie, avait déjà été exilé en 721. Et cette rupture dans le peuple d'Israël a continué à vivre. Et puis, on vous parle de la construction du temple, qu'il faut situer entre 520 et 515, surtout sous l'impulsion de deux prophètes, le prophète Agé et le prophète Zacharie, importants, ceux-là. Et puis, à partir du chapitre 7, vous avez une deuxième partie, un deuxième point, disons, donc, reconstruction du temple, mais le temple étant fait pour le peuple, évidemment. Organisation de la communauté, voilà, et alors, on vous donne au chapitre 7, le texte de la mission d'Esdras. Après ces événements, sous le règne d'Artaxerxès, mais on fait bon marché avec la chronologie, ne vous en faites pas, roi de Perse, Esdras, fils de Seraïa, fils de Azaria, fils de Kelkia, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Achitoum, fils d'Amaria, fils de Azaria, fils de Merayot, etc., etc., etc. Ça veut dire que il y a une continuité dans la vie, et cette continuité est celle de la présence divine. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe, versé dans la loi de Moïse, qu'avait donné le Seigneur, le Dieu d'Israël. Comme la main du Seigneur, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Intéressant de voir que on va essayer dans ce livre d'Esdras et de Néhémie, puisque le roi de Perse donne l'autonomie à la religion d'Israël, c'est-à-dire, voyez, c'est la loi du roi de Perse. Le Perse est ouvert, est tolérant, mais est ouvert à cette réalité de Dieu. Donc l'autorité du roi de Perse et l'autorité de Dieu coïncide en quelque sorte. C'est cette idée qui est prise. Toute autorité réelle, ouverte, accueillante, négociante, partageante, toute autorité de ce type-là vient de Dieu. Donc l'organisation de la communauté par Esdras et puis par Néhémie. On pense bien que Néhémie est venu deux fois, mais lui-même envoyé par le roi de Perse pour reconstruire cette fois-ci les murailles. Mais reconstruire les murailles, ça veut dire montrer les limites du peuple. Tout peuple a des limites. Il ne fait pas n'importe quoi. Et sa liberté, c'est justement de manifester et d'observer intérieurement, librement, ses limites. La liberté d'un homme vient justement de l'acceptation et de l'exercice de ses limites. Nous ne sommes pas tout puissants. Nous sommes tout puissants de réaliser notre propre être en considérant que les autres existent et que notre être est une présence de Dieu. Et alors on vous raconte que Artaxerxès a fait une loi particulière pour que le temple soit reconstruit, un firman. Et de fait, on en a trouvé aussi d'autres. Un firman, c'est-à-dire la certification par Artaxerxès et le don d'un certain nombre de subsides pour reconstruire le temple. Vous avez cela au chapitre 7. Et puis, le voyage d'Esdras, il retourne de Babylone en Palestine, où il n'est pas encore venu, semble-t-il. Et alors, justement, pour que le peuple soit vraiment le peuple de Dieu, pour que le peuple observe vraiment cette présence divine dans tout ce qu'il vit, il faut que les familles elles-mêmes, expriment cette présence de Dieu concrètement. Et comme beaucoup de mariages se sont faits entre des Israélites et des étrangères, en Babylone ou ailleurs, il y a un problème. Le problème, ce sont les mariages mixtes. Parce que ces mariages mixtes, en ne vivant pas selon la loi de Dieu, mais vivant selon une loi humaine, ne sont pas vraiment le témoignage de la présence divine. Et donc, on va comment dirais-je, supprimer ces mariages, les rendre invalides, disons plutôt les invalider. Et Esdras, qui est, semble-t-il, plus radical que Néhémie, Esdras va dire, eh bien, abandonnez vos femmes qui sont étrangères et trouvez-vous une femme, il faut bien dire juive maintenant, à partir du judaïsme. Et donc il y a une sorte de radicalité première. On voit bien que cette radicalité ne sera pas vécue. Elle ne sera pas pratiquée, parce que si vous voyez par exemple le livre de Jonas, un exemple, le livre d'Esther, un autre exemple, vous voyez bien qu'elle ne sera pas appliquée. Mais il y a une mentalité. Retournez à cette réalité de Dieu présent dans votre, dans la réalité de la vie et de cette vie que vous transmettez. C'est la vie de Dieu que vous transmettez. Et donc, vous voyez, ce retour à une certaine radicalité va démontrer la volonté de retrouver l'unité du peuple qui est cette présence de Dieu, qui est symbolisée par le temple, mais qui est intérieure au peuple, et qui va s'exprimer dans la reconstruction des murailles, c'est-à-dire dans l'acceptation de nos limites humaines. Donc il y a une symbolique théologique extrêmement importante à lire dans les lignes de ces deux livres. Et alors, on vous donne la décision de rebâtir le rempart de Jérusalem, on va trouver des volontaires pour la reconstruction. On a des subsides, bien sûr, mais il faut construire. Donc il y a un engagement. Le peuple doit se reconstruire. Comme on demande, par exemple, vous voulez une église, il n'y a pas d'église dans telle brousse, vous voulez une église. Eh bien, on va se mettre ensemble et on va reconstruire cette église. On va la construire ensemble. Et le fait de participer à la construction, concrètement, la construction de cette église, dit justement l'engagement intérieur. Mais, il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec des gens qui sont installés là et qui ne veulent pas d'une nouvelle idée, d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle mentalité. Cette mentalité reconstructive. Et ils font justement négocier avec tous ces gens. Vous voyez, Sanballat, la grande famille importante, des Tobias, ils viennent des Ammonites. Et donc il y a pas mal de difficultés. Et il faut surmonter ces difficultés. Parfois, en coupant certaines choses. Et vous avez au chapitre 9, un beau chapitre, chapitre 9 du livre de Néhémie, une belle cérémonie expiatoire. Mais cette cérémonie expiatoire vient après le chapitre 8, qui est, comme le disait Anne Soupa dans son éditorial, extrêmement importante et qui est considérée dans le judaïsme comme la véritable fondation du judaïsme, c'est-à-dire de la religion de Juda d'après l'exil, où la population doit retrouver l'unité dans la présence de Dieu, à travers les sacrifices, à travers la vie de prière, à travers cette acceptation des limites. Or, quand arriva, je lis au chapitre 8e du livre de Néhémie, nous avons d'abord reconstruction du temple, et puis les mariages, et la Torah, la lecture de la Torah. Et puis nous aurons à la fin, dans le livre de Néhémie, alors, Nous avons à la fin, dans la suite du livre de Néhémie, jusqu'au chapitre 13, nous aurons alors la construction des murailles. Donc, retrouvons cela, construction de l'autel et du temple, vivre selon la loi, la Torah réhabilitée, et troisièmement, l'acceptation, la reconstruction des murailles, protectrice de la liberté. Et quand arriva le septième mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme. Ce septième mois va devenir la fête des tentes, la fête de la restauration d'Israël avec la fête des tentes, le séjour au désert et le don de la Torah. Le don de la Torah. Elle se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils dirent au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Le livre de la Torah de Moïse. Alors le prêtre Esdras, voyez, le prêtre Esdras, apporta la Torah. Apporter le livre de la Torah, c'est apporter la Torah, c'est être soi-même l'enseignant, l'enseignement, devant l'assemblée qui se composait des hommes, des femmes et de tous ceux qui avaient l'âge de raison. Sur la place située devant la porte des eaux, il lut dans le livre du petit matin à la mi-journée, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui avaient l'âge de raison. Tout le peuple tendait l'oreille au livre de la Torah. On apporte le livre, la Torah elle-même, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu est présent à travers le livre, et on écoute. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois, construite pour la circonstance. Près de lui se tenaient à sa droite Matitia, Shema, Anania, Uriah, Kelkia et Maseya, et à sa gauche Pedaya, Michaël, Malkia, Hashum, Hashbadana, il y a même des noms babyloniens, Zekaria et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il dominait tout le peuple, il était sur un lambon, c'est ça la signification de lambon, ou la chair de vérité. Et quand il l'ouvrit, tout le peuple se mit debout. Car c'est la Torah qui nous fait tenir debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu. Tout le peuple, main levée, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Apporter la Torah, c'est apporter le Seigneur. Le visage contre terre. Et alors, on vous donne de nouveau un certain nombre de personnages qui étaient lévites et qui expliquaient la Torah au peuple pendant que le peuple demeurait debout. Il fallait bien expliquer parce qu'on ne connaissait plus l'hébreu. On parlait araméen. On connaît encore un peu, on reconnaît, hein, évidemment, c'est de la même, ce sont les mêmes racines, mais la langue n'est plus tout à fait la même. On parle araméen, et donc il faut expliquer en araméen ce que dit la Torah. Donc il était lévite, expliquait la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout. Et Esdras lut dans le livre de la Torah de Dieu, ah maintenant ça devient la Torah de Dieu, traduisant et donnant le sens, ainsi, on comprenait la lecture. Donc il faut un targum, c'est-à-dire une traduction. Alors Néhémie, son excellence, et Esdras, le prêtre scribe, et les lévites qui instruisaient le peuple, on voit bien que les lévites ont été surajoutés, il faut leur donner leur place. Et les lévites dirent à tout le peuple, ce jour est saint pour le Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. Parce que cette parole de la Torah les culpabilisait, leur montrait justement qu'ils n'étaient pas dans le droit chemin, dans la véritable halakha. Tout le peuple pleurait. en entendant les paroles de la Torah. Il leur dit encore, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces, et faites porter sa part à qui n'a rien de prêt. Mangez et partagez. Car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez point. La joie du Seigneur est votre rempart. » Important de voir le rempart, c'est la joie du Seigneur. C'est votre joie de vivre qui va exprimer cette présence du Seigneur. Et nous allons retrouver la même chose dans la communauté primitive, dans les Actes des Apôtres. Ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre rempart. Et les Lévites, de calmer tout le peuple en disant, taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez point. Et tout le peuple s'en fut manger, boire, distribuer des parts et se livrer à grande liesse. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait proclamées. La Torah ne sont pas des paroles qui culpabilisent. La Torah, ce sont des paroles qui font vivre, qui donnent la joie de vivre. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, les prêtres et les lévites, se réunirent autour du scribe Esdras pour scruter les paroles de la Torah. Ah, il faut maintenant faire le drash, hein, le midrash, c'est-à-dire l'étude pour intérioriser cette Torah. Une Torah qui n'est pas intériorisée, qui n'est pas vécue, dans laquelle nous n'avons pas mis notre chair, n'est pas la Torah. Ils trouvèrent écrit dans la Torah que Yahvé avait prescrite par le ministère de Moïse. Les enfants d'Israël habiteront sous des huttes durant la fête du septième mois, Soukhot. Sitôt informés, ils firent publier dans toute leur ville à Jérusalem, donc c'est la fête de la Pentecôte, allez dans la montagne et rapportez des rameaux d'olivier, de pin, de myrte, de palmier et d'autres arbres feuillus pour faire des huttes comme il est écrit. Mais de nouveau, construire ces huttes, c'est des huttes et pas des maisons en dur, ça veut dire nous construisons une maison qui est relative. Notre demeure humaine, c'est relatif à quelques dizaines d'années. Ce n'est pas la vie essentielle. Ce n'est pas encore la vie de Dieu. C'est caduque. C'est vulnérable. Le peuple y alla. Ils apportèrent des rameaux et se firent des huttes, chacun sur son toit, dans leur cour, dans les parvis du temple du Seigneur, sur la place de la porte des eaux et sur celle de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée, ceux qui étaient revenus de la captivité, construisit ainsi des huttes et y habita. Les Israélites n'avaient rien fait de tel depuis les jours de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour. Donc découvrir que l'on vit, c'est découvrir en même temps les limites de sa vie. Et il y eut une très grande liesse. Esdras lut dans le livre de la Torah de Dieu chaque jour, du premier au dernier, 7 jours durant. On célébra la fête le 8e et il y eut comme prescrit une réunion solennelle. Et effectivement, vous avez au chapitre 9e cette cérémonie expiatoire, c'est-à-dire la conversion. La conversion à cette présence de la Torah vivante dans le peuple. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu d'éternité en éternité et qu'on bénisse ton nom de gloire qui excède toute bénédiction et louange. Et puis nous avons alors, à partir du chapitre 10e jusqu'au chapitre 13e du livre de Néhémie, vous voyez, qui forme une unité avec le livre d'Esdras, vous avez justement cette pratique du retour au mariage entre juifs, pour manifester par cette, je veux dire en quelque sorte, cette ségrégation, c'est-à-dire cette sainteté, pour manifester justement que ce qui fait vivre Israël, c'est cette présence de Dieu. Et donc, vous avez une sorte d'idéal qui est manifesté, vous le retrouverez dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au chapitre 4e. Mais je lis encore cette finale du chapitre 12 du livre de Néhémie. En ce temps-là, on préposa aux salles prévues pour les provisions, les prémices, les dîmes, etc. Car Judas mettait sa joie dans les prêtres et les lévites en fonction. Ce sont eux qui assuraient le service de leur Dieu et le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers, suivant les prescriptions de David et de Salomon, son fils. Vous voyez, David et Salomon sont repris aussi. Car dès les jours de David et d'Asaph, depuis bien longtemps, il existait des gildes de chantres et des cantiques de louanges et d'actions de grâce à Dieu. Donc tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, versait aux chantres et aux portiers les parts qui leur revenaient d'après leurs besoins quotidiens. Nous retrouvons un peu la même chose dans la communauté de Jérusalem, dans les Actes des Apôtres. On remettait aux Lévites les redevances sacrées et les Lévites en remettaient aux fils d'Aaron. En ce temps-là, on lut au peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit « L'Ammonite et le Moabite n'entreront jamais dans l'assemblée de Dieu, car ils n'ont point accueilli les enfants d'Israël avec le pain et l'eau. Ils soudoyèrent contre eux Balaam pour les maudire, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. » Et justement, le livre de Ruth, par exemple, le manifeste, même les Moabites et les Ammonites pourront être intégrés au peuple de Dieu. Voilà. Vous retrouverez ces perspectives théologiques à partir de la page 115 dans le syllabus. Excusez-moi, je vous ai volé 3 minutes.